ne savent pas. Et même si les populations autour du lieu-dit ou de la ville qui portent le nom du permis peuvent être informées, tous les autres ne le savent absolument pas. Donc là encore, beaucoup de Français découvrent qu'ils sont dans les zones de permis de recherche.
On s'aperçoit que les gaz de schiste ont déjà été exploités aux États-Unis. Et qu'est-ce qu'on découvre ?
On découvre des paysages lunaires. C'est-à-dire que ce sont des paysages éventrés. On découvre que les conséquences en termes environnementaux apparaissent très lourdes, en termes d'utilisation de l'eau, en termes de pollution de l'eau, en termes de pollution de l'air, à telle enseigne qu'au moment où la France se lance à corps perdu dans cette affaire-là, les Américains viennent de confier à l'EPA. Il n'y a pas de ministère de l'Environnement aux États-Unis. L'EPA, c'est un peu le ministère de l'Environnement, si vous voulez. Donc l'EPA est chargée d'une étude d'impact qui doit durer plus de 2 ans sur les conséquences environnementales de l'exploitation des gaz de schiste.
Aux États-Unis.
Aux États-Unis. Par ailleurs, il y a 2 États, à ma connaissance, il y en a peut-être d'autres, qui ont demandé un moratoire sur l'exploitation des gaz de schiste tant ils se rendent compte des conséquences que cette exploitation peut avoir pour la vie des gens. Et donc c'est au moment où les États-Unis se rendent compte que c'est peut-être pas une bonne idée que nous nous lançons encore perdus dans cette affaire.
Bon, Borloo a signé ses permis d'exploration en mars 2010 sans prévenir quiconque. Les élus,
rien.
Locaux, les
personne.
Responsables, personne.
Personne, absolument personne.
Et en fait, alors vous voyez une stratégie, une incompétence.
Alors, il faut savoir que derrière Borloo, il y a bien des gens. Tout le monde sait ce que c'est qu'un ministre. C'est pas insulter personne que de rappeler cette évidence. Un ministre, il arrive à un moment X, il repart à un moment Y. Il arrive avec un staff de 15 personnes, son cabinet, qui soigne son image publique, qui soigne ses interventions télévisées. Mais lui, il connaît rien au sujet. Borloo, il connaît strictement rien au problème d'écologie et d'énergie. C'est peut-être dur à entendre, mais je le dis et je le maintiens. Et donc, bien sûr, c'est pas lui qui a pensé qu'il fallait filer des permis d'exploration de gaz de schiste à qui que ce soit. Qui l'a fait ? C'est ça qui est intéressant. Uh-huh. Sur le permis d'exploration de Nantes, qui est tout près du Larzac et qui a mis le feu aux poudres.
NANT, oui.
NANT, pas oui. Nantes, oui. Non, oui. NANT dans l'Aveyron. Eh bien, c'est le directeur de l'énergie qui a signé ce permis. Le directeur de l'énergie, c'est un monsieur Abadi, qui est ingénieur général des mines et qui a préparé ce travail pour Jean-Louis Borloo. Il a signé ce permis et par délégation de Jean-Louis Borloo. C'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que, y a
c'est
une
votre cible, ça, les mines. Hein. Pour oui. Vous, il y a une mafia des mines.
Non, non,
pas
non,
mafia.
Non, non, non.
Il y a un
non,
corps, en
non,
tout
non.
cas.
Non, franchement, je veux pas employer ce mot de mafia parce que c'est pas ça. En plus, c'est vraiment pas ce que je pense. Il faut savoir que le corps des mines, c'est un corps extraordinaire puisque c'est un corps qui est né avant la Révolution française. Avant la Révolution française. Il a plus que 2 siècles d'existence. C'est des grands ingénieurs d'État. Ce sont des gens souvent tout à fait remarquables dans leur domaine. Seulement, c'est un corps qui, avec les années et les siècles même, à mon avis, a complètement déraillé. Pour moi, c'est devenu un corps oligarchique, purement et simplement. C'est-à-dire que ce sont des gens qui se croient tout puissants, qui se croient beaucoup plus malins que n'importe qui, et évidemment beaucoup plus malins que les politiques, et qui ont survécu à toutes les guerres, à toutes les révolutions, à tous les changements de régime, depuis avant la Révolution française. Vous imaginez ça ? Ils ont survécu à tous les régimes. C'est 10 fois plus, 10 fois mieux que Talleyrand. C'est-à-dire que c'est un corps d'une stabilité invraisemblable, et ces gens-là pensent pour nous, en notre nom, les questions de l'énergie dans un pays comme la France. Ils sont sûrs de les avoir mieux réglés que quiconque. C'est fascinant d'observer ça de
près. Le nucléaire, c'est eux.
Le nucléaire, c'est eux, mais le pétrole également. Le premier président d'Elf et Rap en 1967, c'est Pierre Guillaumat. Pierre Guillaumat, qui est l'homme de la bombe atomique française, qui a été aussi ministre des armées du général de Gaulle. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont le sentiment qu'ils savent infiniment mieux que quiconque ce que nous devons faire en matière d'énergie.
Mais ils sont au service de la République ou au service des grandes compagnies ?
Moi, je ne dirais pas qu'ils sont au service des grandes compagnies. Je pense qu'ils ont une vision technicienne et non démocratique de ce que c'est que l'énergie. Et ils ont peur de la société. Et donc, ils ont toujours tout fait pour éviter qu'il y ait des débats sur l'énergie en France. En fait, ils ont réglé les questions entre eux et ils l'ont ensuite proposé, imposé aux politiques. Et les politiques nous l'ont imposé à nous, les citoyens. Il n'y a pas eu de débat en France au moment de la création d'EDF pour des raisons assez évidentes. C'était l'après-guerre. Tout baignait dans un enthousiasme fou. On se prosternait devant une compagnie nationale d'électricité. On croyait qu'on avait atteint le nirvana. Il n'y a pas eu de débat autour de l'industrie pétrolière. Tout a été phagocyté par les mines. Guillaume était un mineur, était un ingénieur des mines de très haute importance. Bon, mais il y a un autre personnage qui est André Giraud, qui est lui aussi un ingénieur des mines, qui est l'homme du programme électronucléaire en France. C'est-à-dire qu'à l'occasion de la création du programme électronucléaire en France dans les années 70, le corps des mines par l'intermédiaire d'André Giraud, qui voulait faire, comme il le disait à l'époque, une